On a encore dans l'imaginaire collectif la maison des trois petits cochons, mais en fait, la construction paille, depuis 2012 déjà, hein, ça fait plus de 10 ans, il y a des règles professionnelles qui les encadrent, et donc on est sur une technique dite courante.
Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Bédunot. Je prononce bien ?
Oui, parfaitement.
Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors, après un parcours universitaire en matériaux et une première grande expérience dans la recherche et développement en technique routière, tu as ressenti un besoin de sens. Donc, tu t'es donc tourné vers la recherche sur le bois, tu as suivi une formation en construction en terre crue et en paille et tu as même réalisé un projet d'autoconstruction d'une maison à ossature bois-paille pendant 4 ans. Finalement, tu as quitté ton précédent emploi pour te former dans le bâti ancien, et rejoindre Oikos. Oikos, c'est quoi ? C'est une association créée en 1991 qui promeut et développe la construction et la rénovation écologique en prenant en compte l'environnement, la santé des individus et les impacts socio-économiques. Ces missions sont d'informer auprès des particuliers, mais aussi des collectivités, sur des renseignements techniques sur l'éco-rénovation, mais l'éco-construction aussi, de former et de sensibiliser à l'habitat écologique à travers diverses activités telles que des accompagnements de projets, des formations, des animations et des visites de sites. Le sujet d'aujourd'hui, avec Étienne, on va parler éco-rénovation et éco-construction avec un focus sur l'éco-rénovation parce que ça fait longtemps qu'on aimerait en parler. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Étienne, sur cette présentation ?
C'est parfait, Caroline.
C'est parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, c'est une belle présentation, ça présente bien l'émission de Oikos.
Trop bien. Et donc, pour commencer cet épisode, on commence toujours par notre petit brise-glace, notre petit jeu. Tu m'as préparé donc une vérité et un mensonge sur le sujet du jour. Donc, je t'écoute et à moi de trouver la bonne de la fausse.
Donc, une première phrase, on peut faire des économies d'énergie en réalisant des petits travaux ponctuels de rénovation. Comme par exemple juste isoler les combles ou juste changer les menuiseries. Et une seconde phrase, il y a besoin de travailleurs qualifiés dans le secteur de la rénovation écologique.
Alors, je pense qu'on peut faire des économies déjà en faisant quelques petits travaux, donc je dirais que celle-ci est vraie. Alors, il y a toujours besoin, je pense, aussi de travailleurs, donc j'ai l'impression que les deux sont vrais. ok, allez, je vais dire la première est vraie, la deuxième est fausse.
Eh ben, dans l'ensemble, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il y a un besoin énorme dans le secteur de la rénovation écologique, d'artisans qualifiés, de gens qui sont capables d'accompagner des porteurs de projets, il y a des besoins d'investissement et d'aider les ménages les plus précaires. Faut rappeler quand même que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 79% du parc construit qui date d'avant la première réglementation thermique en 74, et que à peu près 80% des ventes et 69% des locations sont classées D, E, F ou G. Mmh. Donc, ce qui est quand même vraiment pas terrible. Et en fait, c'est un mensonge. C'est peut-être un demi-mensonge puisqu'on peut toujours faire des économies d'énergie en faisant des petits travaux, mais en fait, c'est très souvent insignifiant. C'est-à-dire que pour vraiment voir une différence sur sa facture énergétique, les travaux doivent être faits de manière globale parce que, en fait, si on ne traite que l'isolation, par exemple, des combles ou que le changement des menuiseries, les déperditions vont se faire quand même par ailleurs. Et donc, il faut vraiment penser global, c'est-à-dire isoler la toiture, les murs, travailler l'étanchéité à l'air, éventuellement en changeant les menuiseries et aussi en travaillant sur la ventilation. Et si on ne fait pas, entre guillemets, ce package, et puis bien sûr travailler le mode de chauffage aussi, puisque une fois qu'on a isolé, si on est sur un ancien mode avec une grosse puissance, on ne va pas être finalement très performant parce que ce sera surdimensionné. Et donc vraiment, pour faire des économies sensibles d'énergie, il faut vraiment privilégier une rénovation globale.
Ok.
Voilà. Ensuite, c'est, quand je disais c'est un demi-mensonge, en fait, il y a plein d'économies d'énergie qui sont possibles juste en adaptant les usages. Donc, en fait, sans faire de travaux, il y a déjà des économies à faire pour la plupart des ménages. Mmh. Et c'est aussi, entre guillemets, un demi-mensonge dans le sens où on le dit trop peu, mais il y a une grande partie des ménages qui déjà n'ont pas les moyens de faire des rénovations globales parce que c'est très coûteux et quand bien même il y a des aides, le reste à charge est énorme. Et ces gens-là, qui sont en grande précarité énergétique, ne feront pas d'économie d'énergie puisque déjà aujourd'hui, c'est des gens qui ne se chauffent pas. On croise des familles qui chauffent une pièce avec un petit poêle à bois et quand ils vont se coucher, c'est les enfants, prenez vos bouillottes et vos manteaux et au lit, quoi.
Oui, donc c'est pas eux forcément les plus énergivores, finalement.
Voilà, ces gens-là vivent dans des passoires et ne peuvent pas chauffer parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc même en faisant, entre guillemets, ils vont gagner en confort s'ils font une rénovation globale, mais ils feront pas d'économie vu qu'ils n'ont pas de dépenses énergétiques réelles, quoi.
Oui, ça soulève effectivement aussi d'autres soucis de société, comme tu dis, quoi.
Tout à fait.
Ok. Eh ben, écoute, très intéressant. Merci pour cette introduction, cette mise en matière. Je ne trouve plus l'expression, mais on m'a compris. On est les pros aussi ici sur ce podcast pour les expressions un peu loufoques.
D'accord.
Alors, écoute, je te propose de peut-être partir de la base déjà sur cet épisode. Qu'est-ce que l'éco-construction et qu'est-ce que l'éco-rénovation ? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ces deux approches, quelles sont leurs grandes différences et un peu leurs avantages et inconvénients à chacune d'entre elles?
Ok, ben, d'une manière générale, qu'il s'agisse d'éco-construction ou d'éco-rénovation, le principe c'est d'utiliser des matériaux qui ont le plus faible impact possible sur leur environnement. Donc on parle principalement de matériaux qui sont dits biosourcés, c'est-à-dire d'origine plutôt végétale ou éventuellement animale, comme de la paille, du chanvre, de la fibre de bois. On utilise aussi des matériaux dits géosourcés. Mm-hmm. Donc là, on pense principalement à la terre crue, puisque quelque part, même si le ciment, la chaux sont des matériaux géosourcés, ça reste des matériaux qui ont un impact environnemental fort puisque il faut chauffer beaucoup les matières minérales pour en extraire un liant, alors que l'argile c'est un liant qui est déjà hyper intéressant et qui est très très disponible à l'échelle de la planète et on trouve partout donc voilà, faut l'utiliser, c'est hyper hyper économe. Et donc la différence entre éco-construction et éco-rénovation, l'éco-construction, comme son nom l'indique, on construit du neuf, alors que l'éco-rénovation, on part d'un existant qu'on va réhabiliter de manière à le rendre plus performant, plus adapté, on va dire, aux besoins de confort et de services qu'on attend aujourd'hui dans un logement. Donc voilà, la grosse différence c'est que l'éco-construction, on reste entre guillemets on va construire du neuf et donc il y a un impact forcément au niveau de l'environnement, quand bien même on n'utilise que des matériaux vertueux, dégradables, qui stockent éventuellement le carbone, il y a un moment on artificialise quand même des milieux qui sont naturels, donc on a un impact négatif sur l'environnement. Alors que la rénovation, on va utiliser un existant qui est pas forcément lui éco-construit, et qui est pas forcément du bâti ancien, c'est-à-dire qu'il y a du bâti ancien en pierre, en terre, en bois, mais il y a aussi plein de bâtiments qui ont été construits entre les années 50 et les années 80-90, qui sont pas forcément très bien isolés, pas forcément très bien conçus en termes d'orientation et compagnie. Mais qu'il faut rénover quand même, puisque c'est une très très grosse partie du parc habitable. Et accessoirement, en fait, on a en France une très grosse réserve de foncier qui est pas exploitée, alors qu'on continue à construire. Alors, ça pose des problèmes aussi dans le sens où une grande partie de ce parc qui nécessite réhabilitation et qui est potentiellement vacants et principalement dans des zones rurales, éloignées de l'emploi, et donc ça pose, on va dire, aussi des problèmes de société, alors que la construction, elle est la plus forte dans les métropoles et avec des villes qui grandissent et qui grossissent toujours plus. Donc il y a cette dualité, entre guillemets, qui est un peu difficile à concilier entre les questions de mobilité, en fait, liées au fait d'habiter plus à la campagne, et puis les questions d'artificialisation des sols. Donc voilà, ensuite, aujourd'hui, on continue quand même de voir de la construction neuve à la campagne, alors qu'on a plein de maisons de centres de villages
qui peuvent être rénovées.
Qui sont vacantes, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est problématique.
Il y a effectivement ce côté peut-être illogique de dire, bon, on veut quand même sa maison neuve, alors qu'il y a peut-être énormément de bâti. Est-ce que c'est pas une crainte de la part des acheteurs ou des personnes qui ont envie de s'installer, de se dire la rénovation, ça va être beaucoup plus engageant que la construction? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus, même sur le biais économique? Est-ce que ça pourrait être est-ce que c'est plus cher d'éco-construire que d'éco-rénover? Ça pourrait être aussi un argument.
Alors, pour les questions de coût, en fait, ça va être très compliqué, dans le sens où ça dépend de quoi on parle, en fait. Puisque aujourd'hui, éco-construire, si on passe par un professionnel, c'est très compliqué. Il y a très peu de professionnels qui proposent des bâtiments réellement performants d'un point de vue environnemental avec des matériaux biosourcés. Il y en a quelques-uns qui proposent des constructions au ossature bois isolé en paille, des choses comme ça. Ça se développe, mais ça reste relativement cher. Et puis ça s'appuie généralement toujours sur des fondations, des dalles en béton, des choses comme ça. Et donc ensuite, il y a toujours la possibilité d'auto-construire. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est financièrement intéressant, mais ça demande un investissement en temps qui est quand même énorme. Ça demande quand même un minimum de compétences aussi. Et de trouver du coup les professionnels qui sont capables de nous accompagner pour être sûr de faire les choses correctement. Dans la rénovation, là aussi, les coûts, en fait, ça va être très variable en fonction de qu'est-ce qu'on a à rénover. Est-ce que c'est un pavillon Phoenix des années 70, tout en béton et qui potentiellement, en fait, il y a besoin de retravailler toute l'isolation, la ventilation, mais qui, entre guillemets, en termes de murs, de toiture, est sain. Est-ce qu'on part d'une vieille ferme qui est généralement, du coup, énorme, on a vite des 200-300 mètres carrés de surface à rénover, avec potentiellement des travaux lourds, comme créer des ouvertures, comme reprendre une toiture. Bon, il y a des granulométries de projets qui ont des impacts forts. De la même manière qu'en construction, on peut aussi imaginer des constructions. Enfin, aujourd'hui, on voit des pavillons qui se construisent encore en parpaing, isolé par l'intérieur, ce qui est une hérésie, et des pavillons qui vont faire 200 mètres carrés habitables pour une famille. Enfin, c'est énorme. Alors que on peut aussi privilégier un habitat beaucoup plus frugal, beaucoup plus modeste en termes de surface et qui restera très confortable. Donc voilà, il y a tout un tas d'échelles de possibles. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que veulent les gens, quoi. Aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui restent dans l'esprit. On veut notre pavillon avec notre pelouse autour et qui n'est pas un modèle très vertueux. Pas du tout, en fait.
C'est une question de mœurs aussi, effectivement, je pense. Oui.
Exactement.
Ok. Bon, je te propose qu'on appuie sur l'éco-rénovation, du coup. Savoir un peu ceux qui s'y intéressent, qui ont acheté un bien, qui ont envie d'éco-rénover, quels sont un peu les types de matériaux qu'on peut utiliser en éco-rénovation? Quand tu parlais de matériaux biosourcés, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ces matériaux? Peut-être les critères à prendre en fonction, les critères de choix à prendre en fonction de de sa réno, justement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
En fait, ce qui est très intéressant avec l'éco-rénovation, c'est qu'en fait, les matériaux biosourcés sont très adaptés à la rénovation du bâti ancien, dans le sens où c'est des matériaux qui ont la capacité d'absorber et de relarguer l'humidité. En fait, la respiration des murs, c'est quelque chose qui est très important à respecter dans le bâti ancien. C'est-à-dire que tout ce qui est maçonnerie en pierre ou en terre, on va avoir de l'eau qui remonte depuis le sol par capillarité dans les murs. Et cette eau, elle va avoir besoin de s'évacuer. On va aussi avoir de l'eau qui est créée dans l'habitat par les usages, hein, quand on respire, quand on fait la cuisine, quand on prend une douche, et qui, elle aussi, va avoir besoin d'être évacuée. Et donc, les matériaux biosourcés, en général, ont cette capacité à capter l'humidité, la transmettre dans le mur, la laisser, on va dire, circuler sous forme de vapeur, hein, et ensuite à l'évacuer. Donc, en fait, c'est même presque plutôt les matériaux conventionnels, on va dire, des matériaux type polystyrène, laine minérale, qui sont plutôt à proscrire dans le bâti ancien, puisqu'ils n'ont pas cette capacité à laisser passer l'humidité, et donc ils vont soit perdre leur performance en termes d'isolation s'ils prennent de l'humidité, soit, et ça c'est beaucoup plus gênant, ils vont empêcher la circulation d'eau dans le mur, et donc créer potentiellement des pathologies. On a aujourd'hui malheureusement de trop nombreux exemples d'immeubles qui s'effondrent pour des problèmes d'entretien et de pathologie. Et une partie de ces effondrements, et c'est particulièrement vrai dans la région Rhône-Alpes avec le Pisé, c'est lié à des enduits extérieurs qui ne laissent pas passer l'humidité, hein, des enduits au ciment ou qui vont générer une accumulation de l'humidité dans le mur. Et bah, l'argile, quand on met trop d'eau dedans, elle retrouve son état, entre guillemets, un comportement liquide, et donc ça peut mener à des effondrements, quoi.
Oui. OK.
Et ensuite, si on parle du bâti, on va dire, plus contemporain, où on est sur du béton, des choses comme ça, si on est sur une isolation par l'intérieur, il faut faire attention avec les matériaux biosourcés, puisqu'en fait, le mur en béton n'aura pas la capacité d'évacuer l'humidité qui rentre dans l'isolant. Donc, il va falloir protéger cet isolant avec ce qu'on appelle un frein vapeur hygroréglable, c'est-à-dire un film qui a la capacité de freiner le transfert de vapeur d'eau vers l'isolant, mais qui va pas le stopper complètement, c'est pas complètement étanche. Et donc, il va pouvoir aussi, en fonction du taux d'humidité, s'ouvrir ou se refermer un peu plus, et donc laisser l'isolant respirer. Ce frein vapeur, ça reste un élément essentiel dans l'isolation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un isolant, aussi performant qu'il soit, s'il y a de l'air qui circule à l'intérieur, il va pas être performant. L'analogie qu'on peut faire, typiquement, c'est on se promène, on se fait une petite balade l'hiver en montagne, par une belle journée ensoleillée, on prend une petite polaire, s'il n'y a pas de vent, ça suffit largement, c'est confortable. Si le vent se lève, on va se geler parce qu'en fait, les calories, elles s'en vont à travers l'isolant. Et donc, c'est là que c'est important de mettre un petit coupe-vent qui fait que on coupe cette circulation d'air et donc on garde la chaleur à l'intérieur.
C'est bien imagé, merci.
Exactement, et ensuite... ce qui est encore mieux, c'est les vêtements dits techniques type Gore-Tex, où là, on coupe le vent, mais on laisse la capacité à l'eau sous forme de vapeur de s'échapper, et ce qui fait qu'on évite en plus de rester au bout d'une demi-heure, d'être en saturation en termes d'humidité, que ce soit moite, et là, on se refroidit parce que il y a de l'eau liquide qui se condense à l'intérieur, donc là, c'est catastrophique. En tout cas pour le bâti. Pour soi, bon, attraper une suée, c'est pas catastrophique, encore que ça, on peut choper froid quand même.
C'est pour l'image.
Et pour les chiffres, en fait, alors il y a une étude, j'ai plus en tête exactement les références, mais c'est une étude de l'équivalent allemand du CSTP, le Centre Technique de la Construction du Bâtiment. Si on imagine un mètre carré d'isolant qui est protégé complètement par un film. Par vapeur ou frein vapeur de ces transferts, on va dire, en termes de performance, si on fait une fente d'un millimètre de long sur la hauteur de ce mètre carré d'isolant, on divise la performance par un facteur presque 5.
Okay.
C'est-à-dire que autant ne pas mettre d'isolant si c'est pour qu'il y ait des fuites d'air, ça sert à rien en fait de mettre l'isolant.
Oui, c'est pour se faire plaisir quoi.
Donc voilà. Et donc les isolants biosourcés, il faut bien les protéger, mais les autres aussi. Ils sont, si on, d'un point de vue performance, c'est encore plus important dans le cadre des biosourcés, puisque si du coup on a une accumulation d'humidité, un isolant traditionnel type polystyrène, laine de verre, il va juste, il va y avoir des dégradations liées à l'humidité, mais l'isolant en lui-même va pas en souffrir. Par contre, si on est sur un isolant biosourcé, ben il y a un risque de pourrissement puisque c'est une matière végétale. Donc s'il y a de l'eau liquide, il y a un risque de pourrissement. Donc ça, c'est un point qui est hyper important en rénovation, de bien travailler l'étanchéité à l'air avec des en tout cas pour quand on est en isolation par l'intérieur. Et ensuite, dès qu'on est sur l'isolation par l'extérieur, ben là, les biosourcés, ils ont tout leur sens puisque on est ensuite sur des parements extérieurs, que ce soit du bardage ou des enduits, des solutions qui peuvent être perspirantes, mais de toute façon, il n'y a pas de migration depuis l'intérieur, puisqu'on est en béton ou en brique, vers l'extérieur. Donc, il n'y a pas de problématique liée à des transferts d'humidité potentiels. Et donc, là, les isolants biosourcés, son gros intérêt en isolation par l'extérieur, c'est que déjà, ils stockent du carbone en termes de constituants. Et puis, on est sur des isolants qui sont plutôt denses. C'est-à-dire que du polystyrène, c'est vraiment quelque chose de très léger. Et donc, ça n'apporte aucun déphasage thermique. C'est-à-dire que le déphasage, on est vraiment sur une notion de vitesse des transferts de chaleur. C'est-à-dire qu'il y a la résistance thermique d'un côté, la capacité à empêcher un flux de chaleur de traverser, mais ce flux de chaleur, il va quand même traverser et il y a une vitesse plus ou moins importante. Et donc, cette vitesse, plus elle est importante, moins on aura un déphasage important. Et donc, par exemple, un polystyrène, au bout de quelques heures, il laisse passer la chaleur. Et ça veut dire que, à midi, en gros, il a pris de la chaleur déjà toute la matinée l'été. Et donc, il va commencer déjà à la laisser rentrer dans la maison. Alors que une laine de bois ou de la paille, qui est un matériau, c'est des matériaux beaucoup plus denses, beaucoup plus riches en éléments un petit peu minéraux, de la silice, des choses comme ça, vont créer un déphasage qui est beaucoup plus important. On est de l'ordre de 10 heures à 14 heures en fonction aussi de l'épaisseur de matériaux. Et donc là, en termes de confort d'été, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant. Donc on va aussi bien isoler, c'est-à-dire que pour les besoins de chauffage l'hiver, on sera équivalent entre du conventionnel ou du biosourcé. Par contre, on gagnera beaucoup l'été en termes de confort. C'est-à-dire que la chaleur va commencer à rentrer dans le bâtiment le soir, quand on peut commencer à évacuer cette chaleur en surventilant, en ouvrant les fenêtres et en évacuant naturellement les calories.
Est-ce que, trop intéressant, est-ce que tu pourrais nous citer quelques... parce que du coup, on a bien compris pour les isolants plus classiques qu'on peut connaître, mais pour les biosourcés, est-ce que tu peux nous citer ceux qui existent, les plus communs ou les plus utilisés?
Oui. Alors, le plus utilisé, celui qui a une filière, on va dire, la plus en place, c'est les panneaux de fibre de bois.
Oui.
On trouve deux types de panneaux. Il y a des panneaux qui sont dits semi-rigides. Hein. En réalité, c'est presque souple. Et donc, qui vont vraiment servir à isoler. Et on a des panneaux dits rigides qui, eux, viennent et sont particulièrement utilisés en isolation par l'extérieur puisqu'ils sont aussi support d'enduit. C'est-à-dire qu'on peut directement les enduire avec un enduit adapté.
Plus décoratif du coup pour l'enduit ou pour...
Non, c'est un enduit de protection. C'est-à-dire que quand on isole par l'extérieur, ensuite on vient protéger, alors soit avec un bardage, soit avec un enduit, mais on vient protéger notre isolant de la pluie hein, principalement, et du soleil. Et donc là, on peut l'enduire directement. Ensuite, ça reste des isolants. Donc, c'est des fibres de bois qui sont agglomérées. Et donc, c'est pas des isolants qui seraient complètement compostables dans le sens où on a quand même un liant qui est généralement d'origine pétrochimique qui permet d'agglomérer ces particules la plupart du temps. Donc, c'est pas les matériaux les plus écologiques. Il y a quand même un stock de carbone qui est important, mais il y a une énergie, on va dire, grise qui est importante liée à cette colle et liée aussi à ce qu'il faille les monter un petit peu en température pour agglomérer les particules entre elles. Ensuite, on a des isolants d'origine végétale, donc on va retrouver en sous forme de panneaux des isolants à base de fibres de chanvre, à base de fibres de lin, à base de fibres de coton recyclé, voire à base de l'ensemble de ces fibres mélangées. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a une marque assez connue qui fait un trio de ces trois fibres mélangées. On a aussi des panneaux isolants, donc là on est toujours sur du semi-rigide, qui sont à base de tissus recyclés. Donc c'est des tissus qui sont collectés dans les bornes de collecte, qui peuvent pas être réemployés en termes de vêtements parce que trop abîmés, et donc qui sont triés, et qui sont traités et dont on fait des panneaux d'isolant.
On a fait un épisode d'ailleurs sur la saison 1 là-dessus, avec la fibre de coton.
Ok, donc voilà. Donc et ensuite, on va avoir des isolants, on va dire beaucoup plus alternatifs, dans lequel, dans un premier temps, on peut retrouver la paille. Alors avec une filière qui déjà se structure, puisqu'en fait aujourd'hui, il y a des règles professionnelles de la construction en paille, c'est-à-dire que, enfin, on a encore dans l'imaginaire collectif la maison des trois petits cochons.
Oui.
Mais en fait, la construction paille, depuis 2012 déjà, hein, ça fait plus de 10 ans, il y a des règles professionnelles qui les encadrent et donc on est sur une technique dite courante d'un point de vue assurantiel et technique constructive. Donc ça reste un isolant hyper performant parce que ça isole bien, il y a un très bon déphasage, on est sur un matériau qui est très peu transformé. Donc vraiment très vertueux d'un point de vue environnemental.
Okay.
Qui accessoirement associé à du bois pour la structure et à des enduits terre ou chaud pour la finition, on a vraiment un trio gagnant, c'est-à-dire qu'on a du bois qui stocke le carbone pour la structure, on a de la paille qui stocke le carbone et on a un enduit de finition soit à la terre soit à la chaux ou les deux. Qui apporte de l'inertie au bâtiment, qui apporte un vrai confort en termes de régulation de l'humidité, et si on n'est que sur de l'argile, qui est là aussi hyper neutre en termes d'émissions, donc c'est potentiellement la terre du terrain dans l'idéal, donc c'est vraiment là pour le coup des...
Un beau trio gagnant quoi.
Un très bon trio gagnant pour la construction, moi je milite pour qu'on ne fasse que ça en construction neuve, ce serait vraiment l'idéal, donc voilà. Bon, c'est pas aujourd'hui encore possible malheureusement, mais j'espère qu'on y viendra.
Pas possible dans le sens c'est pas la norme ou est-ce parce que les gens ne sont pas assez informés?
Ouais, parce que les gens ne sont pas assez informés, que accessoirement, si on passait toute la construction neuve en isolation paille, en termes de ressources, on serait un petit peu limité. On a une ressource qui est très disponible. Ensuite, si on passait 100% de la construction neuve en paille, ce serait limite. Mais en fait, on serait limité avant ça aussi par le bois disponible pour construire les ossatures. Et puis, la paille n'a pas vocation à créer des conflits d'usage avec les éleveurs qu'on a besoin pour la litière. Et accessoirement, la paille, elle est très complémentaire de plein d'autres isolants. Je pense aux chanvres, ceux qu'on a présentés avant... donc les mélanges de fibres de lin, de chanvre, de coton, donc en fait il y a des bons mix à trouver, donc il n'y a pas besoin de construire tout en paille, c'est pas un objectif, je le disais parce que
ce serait un idéal.
Je travaille dans un bâtiment construit en paille, je vis dans une maison en paille, donc j'affectionne plus ce matériau, mais en fait il n'y a pas besoin de faire que ça. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a plein d'autres matériaux qui, pour le moment, sont encore très peu développés, mais qui tendent à le devenir. Il y a des recherches qui sont faites sur l'utilisation des balles de céréales. Donc les balles de céréales, c'est vraiment l'enveloppe du grain qui aujourd'hui n'est pas valorisée à part pour être brûlée dans des chaudières. Enfin, elle est valorisée en termes d'énergie, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, et on peut l'utiliser pour remplir des caissons en insufflation, de la même manière qu'on utilise la ouate de cellulose. Alors, c'est vrai que dans les isolants biosourcés, j'ai oublié la ouate de cellulose, qui peut être utilisée en vrac ou en insufflation dans des caissons,
oui.
Pour isoler. Donc là, on est sur du papier ou du carton recyclé. Et donc, on peut le remplacer par de la balle de céréales, hein, de la balle de blé ou d'orge, qui aujourd'hui est un déchet des meuniers, qui est brûlé, et on peut très bien l'utiliser en construction.
Tu viens de m'en apprendre à nouveau, tu vois, Étienne. Je ne savais pas.
Et puis ensuite, il y a des recherches qui sont faites sur tout ce qui est canne de maïs ou canne de tournesol, qui de la même manière ne sont pas, entre guillemets, valorisées. C'est des déchets de l'agriculture qui restent la plupart du temps sur le champ, mais qu'on peut tout à fait envisager de valoriser. Et d'ailleurs, la moelle qui est présente dans ces cannes est très intéressante d'un point de vue isolation. On est vraiment sur une sorte de mousse qui a des très très bonnes performances pour l'isolation.
Bon, ça jette quand même des belles perspectives dans le sens où il y a quand même des solutions dans le biosourcé, effectivement, peut-être dans l'équilibre aussi, comme tu disais, si demain on voulait construire tout en paille, ce serait peut-être compliqué, mais de pouvoir mixer, comme tu dis, et
exactement, il y a des mix à trouver en fonction en fonction des cultures locales. D'ailleurs, si je refais un parallèle avec la paille de blé, il y a des régions qui sont excédentaires, il y a des régions qui sont déficitaires, soit parce qu'on produit pas assez, entre guillemets, de paille, soit parce qu'il y a beaucoup d'élevage et donc beaucoup de besoins pour les litières. Mais par exemple, il y a des alternatives qui peuvent exister, et je pense entre autres à la région PACA qui est très déficitaire en paille, en paille de blé, mais ils ont de la paille de riz qui, elle, n'est pas utilisée parce qu'elle est un petit peu trop agressive pour les animaux au niveau des mamelles, ça crée des problèmes, c'est abrasif, mais c'est tout à fait valorisable en
isolant,
en bottes pour faire de l'isolation. Il y a d'ailleurs une boîte qui fait des isolants en paille de riz, et en fait on peut très bien imaginer, il y a même des travaux qui sont en cours par le réseau français de la construction en paille pour que les bottes de paille de riz puissent intégrer, entre guillemets, les règles pro paille qui sont pour le moment cantonnées à la paille de blé.
Ok, donc il y a des voies d'innovation qui sont en cours, quoi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Juste pour revenir au niveau des bâtiments anciens, on a parlé en attention particulière, donc effectivement tout ce qui était respiration, étanchéité. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités à prendre en compte par rapport à la rénovation des bâtiments anciens, en dehors de, bah, effectivement, de ce côté étanchéité, au niveau des matériaux, est-ce qu'il y a d'autres spécificités?
Alors, quand on parle de bâti ancien, on parle bien de tout ce qui est bâti avant 48, en général. Donc, principalement, de la construction, de la maçonnerie pierre, de la maçonnerie terre, de la structure bois avec du remplissage terre, hein, quand on parle des maisons à colombage, des choses comme ça. Et il y a un quatrième type, c'est tout ce qui est construction en mâche-fer. Donc, les mâche-fer, c'était des résidus de l'industrie métallurgique, qui était utilisé soit de la même manière que le pisé en banchage, soit en bloc préfabriqué. Donc ça, c'est les principaux matériaux qu'on retrouve dans le bâti ancien. Et donc vraiment, l'attention particulière, c'est vraiment laisser ces murs respirer, donc avec des enduits extérieurs perspirants, donc soit des enduits à la chaux, soit des enduits terre éventuellement, mais bon, en extérieur, c'est pas forcément le plus durable. Donc avec une bonne complémentarité avec les isolants biosourcés qui régulent l'humidité. Les autres précautions à prendre, c'est vraiment la protection de l'humidité, hein, donc c'est à la fois laisser les murs respirer, éviter aussi les bétons au niveau des sols, c'est-à-dire que les dalles en béton, elles empêchent aussi les sols de respirer, donc elles vont concentrer l'humidité dans les murs. De la même manière que si à l'extérieur, on étanche aussi avec des trottoirs en enrobé, avec des terrasses en béton, c'est pareil, on va concentrer l'humidité des sols au niveau des fondations et donc favoriser toutes les remontées capillaires. Donc là, il faut privilégier à l'extérieur des matériaux, d'éviter d'imperméabiliser les sols à l'extérieur, et à l'intérieur, plutôt des dalles à la chaux. Et là, la problématique, c'est que c'est pas dans les DTU. Les maçons, il y en a très peu qui proposent ce type de réalisation. Et ça complique un petit peu les choses. Mais c'est vraiment important de plutôt privilégier des dalles à la chaux dans ce genre de bâti.
C'est une alternative.
Ensuite, les autres... je dirais qu'ensuite, sur le bâti ancien, il faut respecter aussi l'aspect patrimonial qui peut être intéressant à conserver. éviter, enfin, ça dépend, ça se réfléchit, mais l'isolation par l'extérieur dans le bâti ancien, ça pose souvent un problème à la fois d'esthétique sur les changements de volume, sur le fait qu'on va masquer, entre guillemets, des éléments décoratifs anciens, des choses comme ça. Et puis, d'une manière générale, en fait, c'est des matériaux qui sont assez mal caractérisés d'un point de vue thermique et qui, en fait, sont considérés comme déperditifs, mais parce qu'on ne prend pas en compte le cycle de l'eau dans les calculs thermiques. Mmh. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils sont pas si mauvais que ça. Et donc, juste avec parfois de la correction thermique, c'est-à-dire on vient travailler un revêtement de surface avec, on va dire, une effusivité. C'est un mot.
C'est un gros mot, ça.
Ouais, l'effusivité, c'est une caractéristique thermique qui traduit la vitesse à laquelle un matériau va se réchauffer ou non.
Okay.
Et donc, typiquement, si on veut faire un parallèle, c'est la sensation de paroi froide ou pas. Typiquement, un mur en pierre, on a une sensation de paroi froide, c'est-à-dire que la température qu'on va ressentir à proximité d'un mur froid, ce sera la moyenne, en gros, entre la température de l'air et la température du mur. Donc un mur qui est à 13 degrés parce qu'il n'est pas isolé, qu'il est en pierre et qui donne sur un extérieur à 0 degrés d'hiver, ben en fait, si l'air est à 19, on va ressentir
la moyenne,
c'est-à-dire à peu près 16 degrés, ce qui est un peu frais. En fait, la correction thermique, on va venir appliquer alors dans les solutions qui existaient, entre guillemets, typiquement dans les châteaux ou les choses comme ça, on va venir appliquer un lambris bois ou éventuellement des moquettes murales qui vont en fait couper cette sensation de paroi froide, qui vont se réchauffer très facilement, qui vont prendre la température de l'air extérieur, enfin de l'air extérieur, non, de l'air intérieur, et donc leur température de surface, elle sera peut-être plutôt de 17 ou 18 degrés, et du coup, on aura une sensation de confort, sans avoir, entre guillemets, amélioré les déperditions du bâtiment. Mais en fait, c'est hyper important quand même, parce que si on est confortable, on va pas chauffer plus. Alors que si on est inconfortable parce qu'il y a une paroi froide, on va monter le chauffage, on va chercher, au lieu d'être à 19, à monter à 21, 22, pour compenser ce phénomène de paroi froide. Donc les correcteurs thermiques, ça va être généralement des enduits à base de terre ou de chaux, avec une forte composante végétale, donc on va ajouter soit de la chenvotte, qui est la fibre de chanvre,
okay.
Soit de la paille, la paillette de lin, des choses comme ça, pour couper justement cette sensation de paroi froide. On peut tout à fait aussi appliquer du lambris ou devant une fenêtre, entre guillemets, le verre peut constituer aussi une paroi froide. Dès lors, enfin, à part si on est sur un triple vitrage, la plupart du temps, les fenêtres, c'est des parois froides. Même sur du double, le verre intérieur reste quand même relativement froid. En fait, il suffit de tirer un rideau pour couper cette sensation de froid l'hiver, quoi. Donc le soir, en tout cas, on gagne facilement en confort. En journée, on va chercher à laisser rentrer la lumière, mais
le soir,
un simple rideau permet de gagner en confort. Et en fait, typiquement, quand on parle de confort, on a beaucoup entendu l'hiver dernier avec les craintes du gouvernement de pas avoir assez d'énergie pour que tout le monde puisse se chauffer convenablement et arriver à des problèmes de blackout du système électrique. On nous a demandé de baisser la température à 19. Pour moi, c'est la chose à faire en dernier. C'est-à-dire que quand on parle de confort thermique, les quatre grands principes, c'est réduire les sensations de paroi froide, donc en travaillant sur l'effusivité des matériaux qu'on emploie dans la construction. Réduire les problèmes de courant d'air, c'est-à-dire que une maison, elle a besoin d'être ventilée, mais il faut qu'on maîtrise cette ventilation. Donc, on cherche au maximum à réduire les entrées d'air parasites, donc travailler sur l'étanchéité à l'air, c'est ce que je disais, par exemple, quand on isole avec des freins vapeur hygro-réglables, avec ce genre avec des enduits qui permettent aussi de limiter les fuites d'air par des petites fissures dans les murs anciens. Et puis, on va maîtriser le renouvellement d'air avec des équipements type VMC, soit hygro-réglable, soit si on a un très bon niveau d'étanchéité à l'air, ça devient intéressant éventuellement de passer sur de la ventilation double flux. qui a aussi des intérêts pour la qualité de l'air intérieur, puisque c'est de l'air qui est filtré,
ouais.
Et qui permet un bon taux de renouvellement d'air sans perdre trop de calories. Donc voilà, et en fait, les courants d'air, en termes de confort, bah, dès qu'il y a un courant d'air, ça, on le sent tout de suite, ça nous refroidit aussi. Hein, là aussi, plus on a une vitesse de courant d'air importante, plus on se refroidit vite. Donc on va travailler sur l'étanchéité à l'air, sur les sensations de paroi froide, réduire les courants d'air, l'humidité, hyper important. J'oubliais le presque le principal. Un air qui est chargé en humidité est beaucoup plus conducteur de la chaleur, et donc on va potentiellement avoir plus de déperdition. Et en plus de ça, bah, c'est assez inconfortable. Une maison trop humide, on le sent tout de suite. On a plus de risques de développer
des maladies,
des infections. On a plus de risques aussi d'avoir des pathologies dans le bâtiment. De la même manière qu'il y a un air trop sec, et c'est le cas souvent en montagne, quand on est en hiver, le fait que la température soit très faible fait que l'air peut se charger assez peu en humidité. Et donc, on est sur des sensations, entre guillemets, d'irritation des voies respiratoires parce qu'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air. Et donc, un taux d'humidité dans l'air entre 40 et 60%, c'est idéal. La régulation de cette humidité par des matériaux qui ont de la capacité d'absorber quand il y en a trop et de le relarguer quand il n'y en a pas assez, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est ce que font les isolants biosourcés. C'est ce que font également les enduits terre ou les parois les murs de refend en terre crue.
Terre crue, c'est pareil. Nous, on en a parlé aussi du coup dans la saison 2. Donc, ça permet aussi d'expliquer un peu tous les composants.
Voilà. Donc, une fois qu'on a optimisé l'étanchéité à l'air, les parois froides et la régulation de l'humidité, eh ben là, éventuellement, on peut venir jouer sur le thermostat pour régler la température de la pièce.
Et là, on est censé être bien niveau confort.
Et là, on est bien. Et en fait, typiquement, si on n'a pas de courant d'air, qu'on a une bonne humidité de l'air ambiant et qu'on n'a pas de sensation de paroi froide, 19 degrés, c'est même plus que confortable. Moi, alors à titre personnel, dans la maison, on est plutôt dans cette configuration où ces trois paramètres sont plutôt bien réglés. On est sur une maison qui est bien isolée, mais il y a un moment, quand on la chauffe pas l'hiver, elle se refroidit quand même. Et typiquement, comme le seul moyen de chauffage c'est un poêle et qu'il est assez éloigné de la partie salle à manger, le matin quand on arrive au petit-déj qui fait froid dehors, eh ben potentiellement cette partie là de la pièce qui est un peu plus difficile à chauffer parce qu'elle est éloignée du poêle, elle est peut-être à 16 ou 17 degrés. Eh ben en fait 17 degrés s'il n'y a pas de sensation de paroi froide, qu'il n'y a pas de courant d'air et que l'humidité elle est à un taux plutôt sain, en fait, c'est pas si froid que ça. Moi, je suis en pyjama, je mets quand même une petite veste, histoire d'eux, parce que je sors de la couette et que c'est plus confortable. Mais ça suffit, en fait.
C'est tout à fait acceptable, oui.
Voilà, c'est tout à fait confortable. 17-18 degrés, c'est très confortable. Alors ensuite, je l'entends, si on est statique en télétravail à 17 degrés, non, là, ça suffit pas. On se réchauffe pas assez. Il y a besoin
d'avoir un appoint ou de chaleur, juste comme ça.
Mais voilà, quand on est, entre guillemets, dans le speed de « je prépare les enfants pour aller à l'école et je me prépare et je range le petit-déj et compagnie », on n'a pas froid, il n'y a pas de souci.
Tu as complètement anticipé ma question, mais c'est très bien, tu l'as complètement répondu sur le fait des systèmes de chauffage par rapport à l'éco-rénovation, les alternatives au chauffage traditionnel, entre guillemets. Donc, si je résume, donc il y a joué sur l'humidité, les parois froides, l'étanchéité et à la fin, le thermostat qui peut faire le complément. Est-ce que tu vois une dernière petite chose à rajouter là-dessus ?
Sur les systèmes de chauffage ?
Oui.
Alors, sur les systèmes de chauffage, le chauffage bois est, d'un point de vue environnemental, plutôt performant. Mm-hmm. Et si on veut vraiment faire du très performant et adapté au bâti ancien, où on a souvent une forte inertie, il existe ce qu'on appelle les poêles de masse. S'ils sont bien étudiés, vont permettre une double combustion, c'est-à-dire qu'il y a un premier foyer dans lequel on va faire brûler le bois, et un deuxième foyer avec un deuxième apport d'air extérieur, dans lequel on va monter en température, parce qu'en fait les fumées circulent autour du poêle pour vraiment optimiser la température de chauffe. Et ces fumées, si on est assez haut en température, vont être brûlées. Et donc, on est sur un système où on va faire des flambées assez courtes, où on va chauffer une masse qui est très importante, qui a une grande inertie, une masse qui est souvent en briques de terre crue ou d'autres matériaux.
Oui, qui capte la chaleur.
Qui va vraiment stocker la chaleur et ensuite la rayonner pendant 24 heures à faible température. Donc, on a un rayonnement qui est doux, ça brûle pas du tout. Il y en a qui en profitent pour faire des bancs ou des choses comme ça qui sont chauffées, entre guillemets. Et donc, on a à la fois une combustion qui est très complète et donc qui émet très peu de composés polluants dans les fumées, et en plus des fumées qui, une fois qu'elles ont fait tout leur circuit dans la masse de stockage du poêle, ressortent à une température très faible. Donc on a vraiment capté un maximum des calories que pouvait apporter le bois, et donc là on est vraiment sur des modes de chauffage très performants, alors qui quand même ont leur inconvénient, c'est-à-dire que ça reste plutôt adapté dans du bâti ancien qui a une forte inertie. Si on est sur une construction récente avec une conception bioclimatique qui peut facilement capter des apports solaires, qui est bien isolée et qui a un très faible besoin de chauffage, on risque en fait plus d'avoir de la surchauffe, dans le sens où si on allume notre poêle parce qu'il fait froid, en fait le temps de réchauffer est très long pour le coup. Et donc on a besoin plutôt dans ces habitats qu'on peut d'inertie d'un chauffage qui est très réactif pour chauffer vite l'air ambiant. Et puis en plus de ça, si ça rayonne pendant 24 heures et qu'en fait il se met à faire du soleil et qu'on capte bien ses apports, ben on risque de surchauffer
derrière. Oui.
Donc voilà, c'est plutôt adapté dans du bâti qui a déjà une inertie importante et accessoirement une occupation régulière, c'est-à-dire que si on n'est pas là en journée, c'est peut-être pas non plus adapté, mais si on en a une occupation régulière, qu'on fait du télétravail, c'est beaucoup plus adapté.
Ok. Trop intéressant. Et justement, dernière petite question, et après, je pense qu'on aura déjà bien avancé dans l'épisode. Pour des bâtiments peut-être plus récents qu'on veut souhaiter rénover, qu'est-ce qui serait le plus adapté en soi en chauffage lié à ça? Donc, peut-être pas ce genre de poêle, mais...
Sur du bâti plus récent, donc ce qui est important de voir, alors c'est plus difficile sur le bâti ancien, dans le sens où c'est du bâti qui n'est pas forcément facile à isoler de manière globale. Sur du bâti plus contemporain, faut vraiment faire de la rénovation globale, c'est-à-dire travailler l'isolation des murs, la toiture, l'étanchéité à l'air et réfléchir au mode de chauffage. Et là, pour moi, ce qui est quand même ce qui reste performant, ça peut être soit du chauffage avec des poêles à granulés, ou à partir du moment où on a une enveloppe extérieure qui est performante, il n'y aura pas une grosse consommation, donc on n'est pas obligé de partir sur de la grosse chaudière avec une grosse trémie de stockage de granulés. Un petit poêle assez réactif, ça peut tout à fait suffire. On peut aussi partir sur de la pompe à chaleur, qui est quelque chose que je préconise pas forcément habituellement, parce qu'aujourd'hui on a plein d'aides pour les installations de pompes à chaleur, et en fait on subventionne des pompes à chaleur qui sont mises sur des passoires énergétiques et qui en gros du coup ont un rendement mais qui est nul, c'est complètement inefficace. Et
il faut qu'il y ait un sens avec le bâti complet, quoi.
Exactement. Par contre, si on est sur du performant, on peut très bien partir sur ce genre de système éventuellement couplé avec du photovoltaïque en autoconsommation et tout. Alors, ça reste des solutions un peu techno, on n'est pas forcément fan, mais moyennant que ce soit des installations qui sont correctement conçues et dans un habitat, on va dire, peu déperditif, ça reste pas complètement déconnant. Ensuite, il faut aussi privilégier, quand c'est possible, des chauffe-eau solaires, puisqu'en fait le chauffage de l'eau domestique, c'est quand même un poste parfois important pour une famille. Et du coup, le chauffe-eau solaire, il y a des systèmes qui existent qui sont plutôt très performants, qui n'utilisent pas de glycol ou autres échangeurs, on va dire, qui sont avec des produits nocifs pour la couche d'ozone, et accessoirement qui chauffent au soleil. Donc ça, c'est top, quoi.
C'est encore mieux. Effectivement.
Voilà. Et ensuite aussi, on peut privilégier, et là, quel que soit le type de bâti, que ce soit ancien ou contemporain, plutôt que de faire des sols chauffants, où au final, on a très peu de contact avec le sol, plutôt privilégier des cloisons, des murs de refend à l'intérieur chauffant, puisqu'en fait, on a une surface de rayonnement qui est beaucoup plus en parallèle avec nous, notre surface corporelle. Et donc, on capte beaucoup mieux la chaleur. Donc, une cloison, par exemple, en briques de terre crue, avec à l'intérieur un système de circulation de l'eau chaude, soit chauffée solaire ou autre, ou avec une chaudière à granules, avec le système de chauffage qu'on a retenu, c'est beaucoup plus pertinent que de faire un chauffage au sol.
Okay.
Et accessoirement, si c'est en terre crue, en plus, ça va permettre une bonne inertie,
la diffusion,
une régulation de l'humidité, bref, quelque chose d'assez vertueux.
Ok, et eh ben hyper intéressant, parce que c'est vrai que ça, c'est un système que j'avais jamais entendu parler finalement, de le mettre plutôt au lieu du chauffage au sol, de faire dans les murs. Donc hyper intéressant, ça ouvre des possibilités nouvelles, Étienne, qui sont peut-être pas si nouvelles, mais au moins on en parle.
Non, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui sont parfois de l'innovation, parfois un retour entre guillemets à des choses qui se faisaient déjà par le passé.
Et qu'on a peut-être laissé passer ou oublié, et qui reviennent peut-être.
Bah, oui, par un accès hyper facile à l'énergie, on est parti sur des solutions simples, mais pas forcément toujours pertinentes, ni très frugales.
Dans le bon sens, oui. Exactement. Eh bien, écoute, je te propose de passer, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur cet épisode, à la phase action et à des questions un petit peu plus tac au tac. Est-ce que tu es parti pour ça?
Allez, je suis prêt.
Go! Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Overkill. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Overkill-Media. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son Overkill? Alors, écoute, nos éditeurs, ils ont un projet, comme tu peux le deviner, d'éco-rénovation. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret, une première question à se poser, un conseil ultra concret pour commencer leur projet?
Pour commencer le projet, c'est déjà faire un diagnostic de l'existence. C'est la première chose à faire, et le faire avec un bon diagnostiqueur. Ça, c'est pas forcément facile à définir, le bon ou le mauvais diagnostiqueur, mais il faut se poser la question globale de l'état structurel du bâtiment, de bien prendre en compte tout son environnement, les pentes, l'ensoleillement, les masques solaires, parce que tout ça, ça peut être travaillé aussi. L'environnement contribue fortement à la performance. C'est vrai que dans
le bâtiment. Ce que tu appelles masque solaire, excuse-moi, je te coupe.
Alors, le masque solaire, c'est tout ce qui va faire de l'ombrage sur le bâtiment.
Des arbres, des...
Exactement, okay. Des arbres, d'autres constructions. Et en fait, c'est à prendre en compte, puisque dans la conception dite bioclimatique, on va chercher à optimiser ces masques solaires, c'est-à-dire que l'été, on va avoir des ombrages projetés sur le bâtiment pour éviter la surchauffe, et l'hiver, au contraire, on va chercher à capter au mieux les apports solaires. Et donc, typiquement, on va mettre des arbres à feuillage persistant plutôt au nord pour se protéger des vents dominants. On va mettre des feuillages caducs, des arbres qui perdent leurs feuilles à l'est et à l'ouest, puisque, comme ils perdent leurs feuilles en hiver, on aura quand même du soleil qui passe à travers. Mm-hmm. Et par contre, en été, quand on a le soleil qui est à l'est et à l'ouest encore un peu rasant, on va projeter une ombre sur les bâtiments. Et au sud, pour le coup, même un arbre, entre guillemets, n'aura pas forcément une ombre projetée l'été, parce que, en fait, le soleil, il est à l'aplomb. Et donc là, on va plutôt partir sur des protections solaires type pergola végétalisée ou des débords de toit un peu importants, pour que, quand le soleil est à pic, les ouvertures restent à l'ombre. Donc là, c'est les principes du bioclimatisme. Et en fait, il faut évaluer le potentiel du bâtiment par rapport à ça. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment? Je pense aussi aux questions de pente par rapport aux questions d'écoulement des eaux en surface. Quel type de pente, quel type de revêtement, est-ce que l'eau s'infiltre facilement ou pas, est-ce qu'elle vient s'accumuler contre le bâtiment, est-ce qu'il faut drainer. Et puis, ben, à l'intérieur, est-ce qu'on a des problèmes d'humidité, de moisissure, qu'est-ce qu'il y a comme isolant, quelle épaisseur, où est-ce que les combles sont isolés, est-ce qu'on peut les isoler, est-ce que la toiture a besoin d'être faite et auquel cas ben, on pourra en profiter pour isoler, ou est-ce qu'on garde les isolants et dans ce cas-là, comment on isole, est-ce qu'on isole dans les combles, est-ce qu'on isole sous toiture pour garder ces combles aménageables. Donc voilà, faire un diagnostic complet.
Beaucoup de questions à se poser.
Oui.
Il va falloir que tu nous fasses une synthèse, Étienne. C'est quoi un bon diagnostic?
c'est un diagnostic complet. Alors, ensuite, c'est vrai que faut se faire aider par des professionnels, mais ce que je veux dire, c'est que le simple de DPE, le diagnostic performance énergie, est souvent insuffisant puisque on vient pas forcément
creuser
regarder
tous les sujets.
Quel est l'isolant, en quelle épaisseur, et on ne vient pas regarder les aspects environnement. Donc voilà, ensuite, il faut faire un diagnostic aussi, quel mode de chauffage, comment. Et accessoirement, dans le cas du bâti ancien, le diagnostic, le DPE, le diagnostic performance énergétique, il n'est pas favorable au bâti ancien. À la fois, alors j'en ai parlé tout à l'heure, parce que le modèle thermique ne prend pas en compte le cycle de l'eau, et donc a tendance à être plutôt défavorable aux murs qui ont cette capacité à perspirer. Et en même temps, dans le bâti ancien, on avait très souvent des surfaces habitables très importantes, mais avec beaucoup d'espaces tampons non chauffés qui servaient justement à faire, typiquement au nord, on mettait des espaces qui ne sont pas des espaces de vie, qui n'étaient pas chauffés, donc qui pouvaient être plus frais, des remises, des buanderies, des choses comme ça, qui du coup servaient d'atténuateur entre la température extérieure et le volume chauffé, mais qui n'étaient pas pris en compte dans les besoins de chauffage. Or, aujourd'hui, le diagnostic, il prend en compte tout le besoin de chauffage en fonction de la surface habitable. Et donc, même s'il y a des volumes qui ne sont pas chauffés, ils sont pris en compte et du coup...
Ça peut biaiser un peu le diagnostic.
Ils biaisent exactement le diagnostic.
Okay.
Et les diagnostics avant cette modification se basaient sur les relevés de consommation. Et donc, typiquement, si on avait un espace qui n'était pas chauffé, ça prenait mieux en compte.
Ok, donc il y a peut-être des petites incohérences à faire attention là-dessus.
Exactement. C'est-à-dire que le classement, on va perdre peut-être une classe dans l'étiquette, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on va être si peu performant.
Ok, non, mais c'est intéressant de le souligner. C'est parce que je pense que bien souvent, on ne le sait pas, ou on ne s'imagine pas en tout cas. Ok, et ben du coup, on va passer un peu des questions plus personnelles. Déjà, okay. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes pour toi, c'est quoi du coup ton bercail idéal?
Alors, si je le fais très court et sans rentrer dans le détail, c'est un habitat qui est sain déjà pour ses occupants, qui est durable. On ne construit pas pour que ça dure juste 30 ans, c'est pour que ce soit durable. Qui est économe en termes de besoins énergétiques, de chauffage. Tout ce qu'on ne consomme pas, c'est mieux. Et puis qui est résilient. La résilience, quand on parle de matériaux, c'est la capacité à résister aux chocs. Dans le cas d'un bâtiment, c'est être capable de s'adapter, on va dire, dans le futur aux risques qu'on va avoir par rapport au changement climatique. Et donc, typiquement, s'il y a des risques sur les approvisionnements en électricité, typiquement passer sur des volets qu'on ferme manuellement, c'est beaucoup plus résilient que d'avoir des brise-soleil orientables qui en plus généralement vont être en aluminium extrait à l'autre bout de la planète avec beaucoup d'énergie grise dedans, alors que des simples volets en bois font très bien le travail. D'avoir des systèmes de ventilation naturelle, c'est là aussi au final, c'est pas suffisant en soi d'avoir que de la ventilation naturelle. Ça fait partie des choses qui permettent d'avoir un habitat qui est sain, même si un jour on n'a plus de ventilation parce qu'il n'y a plus d'électricité, quoi. Pareil pour le mode de chauffage. Moi, je suis parti sur un chauffage bûche. Ça impose d'être là pour chauffer la maison. On ne peut pas programmer, piloter son installation. Mais n'empêche que le jour où il n'y a pas d'électricité, on peut démarrer le poêle sans problème, alors qu'un chauffage à granules, c'est du bois aussi.
Mais il y a besoin d'électricité.
Il n'y a pas l'électricité pour initier la flamme, ça ne marche pas, quoi.
Ok.
Donc voilà.
Ok, ok. Et du coup, si tu avais un mot, juste un mot à choisir par rapport à tout ça pour définir ton bercail, ce serait quoi ?
Écologique.
Ça passe.
Qui prenne en compte vraiment son environnement, qui, voilà, qui soit respectueux de l'environnement le plus possible.
Ok.
Ensuite, il y a un mot, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit, c'est BTP. BTP, c'est le bois terre-paille. C'est la bonne combinaison de matériaux pour la construction.
Bois terre-paille, ok. Bon, alors écologie et bois terre-paille, ça s'est fait deux mots, hein.
Ouais. Mais BTP, ça en fait même trois, c'est un acronyme.
Même trois. Quand tu le prends en abréviation, ça passe. Est-ce que tu as des sources pour s'informer sur le sujet, des livres, des personnes à suivre, des podcasts, des newsletters, peu importe?
Alors, des sources, il y en a plein, en fait. Déjà, Oikos, c'est un super centre de ressources. Hein. Moi, j'ai rencontré Oikos pendant mon projet d'autoconstruction et en dehors des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé, il y a aussi pas mal de ressources documentaires, de ressources internet. Et puis, c'est pas la seule association qui existe. En France, il y en a plein. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Aplon, il y a DASA, il y a les Compagnons Bâtisseurs, il y a l'ASDER, il y a Terra. Mais en fait, si on regarde sur le territoire, il y a Thiès-Braise du côté de Rennes, Enviropath du côté d'Orléans, Citoyens et Territoires dans le Grand Est, Boîte Mobile ou Écorce en Occitanie, Ecobat ou Noria à Nantes, Ecopolis en Ile-de-France, l'ARP en Normandie, l'Écocentre du Périgord, le Gabion, enfin bref, j'en oublie plein, mais il y a vraiment tout un écosystème d'associations, de centres de formation qui vont vraiment être pertinents.
À cœur de donner un peu l'information.
Des choses. Dans les organismes d'État, il y a aussi le CREBA, qui est le centre de ressources qui a été créé par le CEREMA, en fait, donc, qui est un centre de recherche public. Hein. Et donc, le CREBA, ils sont plus orientés vraiment réhabilitation du bâti ancien.
Okay.
Mais c'est un super centre de ressources. Sur le site de l'ADEME, il y a aussi plein de ressources documentaires hyper intéressantes pour faire des économies d'énergie, pour préserver les ressources en eau, pour préserver la biodiversité. Il y a vraiment plein de ressources documentaires sur leur site. Ensuite, on peut aussi se former, et ça c'est hyper enrichissant, en faisant du chantier participatif, puisque voilà, dans l'idéal du chantier participatif encadré par un professionnel, parce que là il y a un vrai contenu pédagogique, un vrai échange avec un professionnel qui apporte du contenu, ce qui fait que oui, on vient bénévolement sur un chantier apporter sa force de travail, mais en retour, on a
une formation,
un vrai apprentissage fiable sur une technique, et on peut apprendre comme ça à tirer des dalles à la chaux, à faire du rejointoiement sur des murs en pierre ancien, à faire des enduits terre, à faire des enduits chauds, à faire de la correction thermique, de l'isolation avec du terre-paille allégé, avec du chaux chanvre. Enfin, il y a vraiment plein de techniques qu'on peut trouver en chantier participatif. Ensuite, au niveau des bouquins, il y a plein d'ouvrages, hein, mais je dirais que c'est bien d'être dans le faire, et donc même si les bouquins, ça permet d'apprendre des choses, je pense entre autres à la rénovation écologique, des bouquins comme ça, donc aux éditions Terre Vivante, il y a pas mal de bouquins sur la rénovation écologique.
On a déjà parlé, oui, effectivement, de Terre Vivante, ça me parle.
Ouais, ils ont des ouvrages super bien faits. Et puis ensuite, au niveau des podcasts ou des personnes à suivre, il y a Papy Claude qui fait des podcasts qui sont assez intéressants.
Ok.
Nous, alors, chez Oikos, on a sorti un podcast. Alors, pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes. Mais on va essayer d'en sortir d'autres. Alors, ça s'appelle Construction Plurielle. C'est pas vraiment sur la rénovation. C'est plutôt sur la place des femmes dans l'éco-construction. Mais aussi tout un sujet parce que, en fait, le BTP reste un secteur masculin et c'est dommage.
On est en train de montrer ça.
on essaye au travers de ce podcast de déconstruire un petit peu les idées reçues et de montrer que les femmes, elles ont toute leur place dans la construction et la rénovation écologique du bâtiment. On essaye de former des maçonnes, des enduiseuses. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux hommes. Donc voilà, des ressources, ouais, il y en a plein qui existent.
Bon, et ben de toute façon, je synchroniserai tout ça dans les ressources de l'épisode de ce podcast. pour que si les gens veulent aller un creuser un petit peu, ils retrouvent les noms quelque part.
Ok.
Et ben, trop bien. Et ben écoute, on touche à la fin. On a fait un bel épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Étienne? Où est-ce qu'on peut te contacter?
Eh bien, sur le site internet ou Ecos, hein, en fonction des sujets, c'est un vrai centre de ressources. On a à la fois des ressources documentaires, mais aussi un annuaire des professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont des professionnels engagés, qui proposent des prestations d'accompagnement à l'autoréhabilitation ou à l'autoconstruction. On nous contacte soit à l'adresse générique info@oikos-ecoconstruction.com, soit ensuite il y a nos adresses par pôle, hein. On a le pôle sensibilisé, le pôle informé, le pôle formé, et donc on utilise informé@oikos-ecoconstruction.com, et là ce sera moi ou François, mon collègue du pôle informé, qui vous répondront. Et puis j'en profite pour passer un petit message d'appel aux dons, puisque donc Oikos c'est une association. On fonctionnait et on fonctionne encore d'une partie, le pôle formé est plutôt indépendant financièrement et s'autofinance, avec une volonté de rester sur des tarifs les plus abordables et les plus accessibles à tous possible. Et du coup, les pôles sensibilisés et informés qui portent plutôt des missions de services publics qui sont pas des prestations payantes, et donc fonctionnent sur de la subvention. Et en fait, en 2022, on a subi un arrêt brutal et sans explication des subventions de la part de la région, pour un montant qui était quand même très conséquent, 110 000 euros. Et donc ça nous a vraiment fortement pénalisé, et donc on risque, on est en situation financière un peu compliquée, on travaille notre modèle économique, mais clairement on est en recherche de toutes sortes de ressources, et donc on a lancé une grande campagne d'appel aux dons, donc tous ceux qui veulent soutenir les missions et les projets de Oikos peuvent retrouver sur notre page internet un petit lien pour donner. On peut aussi adhérer. L'adhésion, c'est au-delà du montant qu'on donne, qui est complètement libre. Hein. Là, pour le coup, on donne ce qu'on veut. C'est aussi montrer aux gens qui nous soutiennent que derrière, il y a des gens qui sont actifs, qui ont envie de s'investir. Que de temps en temps, on peut solliciter nos adhérents pour des petites missions de bénévolat, pour essayer de les impliquer dans la vie associative. Donc voilà.
Super. Super, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour ce passage. Et puis, je dis à tout le monde, à bientôt dans vos bercailles. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. C'est l'heure du bilan. Voici les trois choses principales à retenir. La première chose, c'est que les petites éco-rénovations peuvent donner l'impression d'économiser de l'énergie. Mais pour des économies significatives, il vaut mieux opter pour une rénovation globale. Ensuite, pour bien comprendre, éco-construire ou éco-rénover, ces deux concepts visent l'utilisation de matériaux à faible impact environnementaux. On se tourne soit vers le biosourcé, soit vers le géosourcé. Et enfin, les matériaux biosourcés comme la paille, le chanvre, le bois sont adaptés à la rénovation des bâtiments anciens en raison de leur capacité à réguler l'humidité. Les isolants biosourcés conviennent particulièrement à l'isolation par l'extérieur pour une meilleure régulation thermique. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier appel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez, viens, construisons au bercail ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.